Chapitre 36. La vieille Ford n'aimait ni les changements de vitesse ni les freinages. Heureusement, entre l'alerte neige et l'heure tardive, les routes étaient plus ou moins désertes. J'ai croisé plusieurs chasse-neige, quelques véhicules de secours et diverses voitures de police qui vaquaient à leurs occupations. Le regard droit, je respectais scrupuleusement les limitations de vitesse. Vêtue de noir, une casquette baissée sur le front, je me sentais quand même très voyante au moment de rentrer dans Boston, vers mon quartier. Je suis lentement passée devant chez moi. J'ai regardé le faisceau de mes phares éclairer le ruban jaune de scène de crime qui jurait sur la neige blanche immaculée. On voyait. On sentait que la maison était vide. Une vraie caricature de lieu du drame. J'ai continué et trouvé à me garer sur le parking désert d'une supérette. J'ai pris mon sac sur mon épaule et fini le trajet à pied. Je me dépêchais à présent. J'aurais voulu être protégée par l'obscurité, mais j'en trouvais peu dans cette ville animée qui ne manquait ni de lampadaires ni de puissants néons. Première à droite, première à gauche, et ma cible était en vue. La voiture de patrouille de Shane était garée devant chez lui. Il était 11h05. Il allait sortir d'un instant à l'autre pour prendre son service. Je me suis mise en position, accroupie derrière le coffre à un endroit où je pouvais me fondre dans l'ombre portée de la Kronvik. J'avais froid aux mains, même avec des gants. J'ai soufflé sur mes doigts pour les réchauffer. Je ne pouvais pas me permettre qu'ils soient engourdis. Je n'aurais droit qu'à un seul essai. Ce serait la victoire ou l'échec. Mon cœur battait à 100 à l'heure. J'avais un peu la tête qui tournait et je me suis brusquement rendu compte que je n'avais rien mangé depuis une bonne douzaine d'heures. Trop tard maintenant. La porte s'est ouverte. La lumière du perron s'est allumée. Shane est sorti. Sa femme Tina se tenait derrière lui en peignoir éponge rose. Rapide bisou sur la joue pour son mari qui partait au travail. J'ai ressenti un pincement au cœur, vite réprimé. Shane a descendu la première marche, la deuxième. La porte s'est refermée derrière lui. Tina n'attendait pas qu'elle soit tout à fait partie. J'ai libéré le souffle que j'avais retenu sans m'en apercevoir et commencé le compte à rebours dans ma tête. Shane a fini de descendre le perron, pris l'allée, avec les clés qui tintaient dans sa main. Arriver à la voiture, enfoncer la clé dans la serrure, la tourner, ouvrir la portière côté conducteur. J'ai surgi de derrière la voiture et je lui ai enfoncé le canon de mon Glock 40 dans le cou. Un mot. Et tu es mort. Shane n'a rien dit. J'ai pris son arme de service et nous sommes tous les deux montés dans sa voiture de patrouille. Je l'ai fait asseoir à l'arrière, loin de la radio et du tableau de bord. J'ai pris le siège conducteur, laissant la fenêtre de sécurité coulissante ouverte entre nous. Je tenais le Glock de mon côté de la vitre blindée, braqué en plein sur ma cible, hors d'atteinte de Shane, même s'il tendait le bras. Normalement, les policiers visent le tronc, la partie du corps la plus volumineuse. Mais comme Shane portait déjà son gilet pare-balles, je braquais mon arme sur son crâne massif. Sur mon ordre, il m'a donné son téléphone portable, son ceinturon et son bip. J'ai entassé tout ça sur le siège passager et pris les menottes métalliques que je lui ai rendues pour qu'il se les passe. L'individu maîtrisé, je l'ai quitté du regard le temps de démarrer la voiture. Je l'ai senti se tendre, se préparer à agir. « Ne fais pas le con. J'ai quelque chose à te rendre, tu te souviens » ai-je dit en montrant mon visage meurtri. Il s'est de nouveau affaissé et ses mains menottées sont mollement retombées sur ses genoux. Le moteur a vrombi. Si jamais la femme de Shane jetait un coup d'œil par la fenêtre, elle verrait son mari faire chauffer la voiture pendant qu'il contactait le central, répondait peut-être à quelques messages. S'attarder 5 à 10 minutes n'aurait rien de trop insolite. Mais au-delà, elle risquait de s'inquiéter, peut-être même de sortir voir ce qui se passait. Autrement dit, je n'avais pas beaucoup de temps pour cette conversation. Quand même encore quelques piques à lancer. Fallait me frapper plus fort, ai-je dit en me retournant pour consacrer toute mon attention à mon ancien collègue. Tu croyais vraiment qu'un traumatisme crânien suffirait à me sortir du jeu ? Shane n'a rien dit. Il regardait le Glock, pas mon visage en compote. J'ai senti la colère monter, comme une envie de me faufiler par l'ouverture de la cloison de sécurité pour le frapper 4 ou 5 fois avec la crosse du pistolet avant de finir de l'assommer à main nue. J'avais eu confiance en Shane. mon collègue. Brian avait eu confiance en lui, son meilleur ami. Et ils nous avaient tous les deux trahis. Je l'avais appelé samedi après-midi après avoir payé le tueur à gages. Mon dernier espoir, dans un monde en train de se désintégrer à vitesse grand V. Bien sûr qu'on m'avait interdit d'appeler la police. Bien sûr qu'on m'avait ordonné de me taire, sinon... Mais Shane n'était pas simplement un collègue. C'était mon ami, le meilleur ami de Brian. Il allait m'aider à sauver Sophie. Au lieu de ça, sa voix froide, totalement dénuée d'émotion à l'autre bout du fil.
C'est pas ton truc de respecter les consignes, hein, Tessa. Quand ces types-là te disent de te taire, tu te tais. Alors maintenant, arrête d'essayer de tous nous faire tuer et fais ce qu'ils t'ont dit.
En réalité, Shane savait déjà que Brian était mort. Lui-même avait reçu des consignes à ce sujet et il m'en avait alors fait part. Brian était un mari violent. Dans le feu de l'action, il était allé trop loin et j'avais tiré pour me défendre. Aucune trace d'agression physique, pas d'inquiétude, il allait m'aider. J'avais bredouillé qu'on m'avait accordé 24 heures pour préparer le retour de Sophie. « Parfait !» m'avait-il interrompu. Il serait là à la première heure le lendemain matin. Un léger passage à tabac et nous alerterions les autorités ensemble. Shane resterait à chaque instant à mes côtés. Shane me surveillerait et rendrait compte. « Évidemment, avais-je alors réalisé. Shane n'était pas seulement l'ami de Brian. Il était le complice de ses turpitudes. Et maintenant, il devait à tout prix sauver sa tête, quitte pour cela à sacrifier Brian, Sophie et moi. J'étais foutue, et la vie de ma fille était en jeu. C'est incroyable comme vous pouvez d'un seul coup ouvrir les yeux quand votre enfant a besoin de vous, comme il devient parfaitement sensé de recouvrir de neige le corps de votre mari, et de ressortir le cadavre de Duke de sous la terrasse où Brian l'avait entreposé en attendant le dégel du printemps, et de faire des recherches sur les explosifs sur Internet. J'avais renoncé à mon déni. J'avais pris le chaos à bras-le-corps et j'avais découvert que j'étais beaucoup plus impitoyable que je ne l'aurais jamais cru. Je suis au courant pour l'argent, ai-je dit à Shane dans la voiture. Malgré ma ferme intention de garder mon calme, je sentais la colère remonter. Je me souvenais du premier coup de poing de Shane, qui m'avait fracassé la pommette, de sa silhouette imposante au-dessus de moi quand j'étais tombée sur le sol ensanglantée. De cette minute sans fin, où j'avais réalisé qu'il pouvait me tuer, et qu'alors il ne resterait plus personne pour sauver Sophie. J'avais pleuré. J'avais supplié. Voilà ce que mon ami m'avait fait. Les yeux de Shane, agrandis par la surprise, sont montés vers les miens. Tu croyais que je ne ferais jamais le lien ? Pourquoi tu aurais monté toute cette mascarade, exigé que je m'accuse du meurtre de mon mari ? Parce que tes complices et toi, vous vouliez vous débarrasser de moi, vous vouliez m'enlever toute crédibilité et ensuite me faire porter le chapeau du détournement de fonds. Ça n'intéresse pas tes copains truands de me faire cracher de l'argent. Tu te sers de moi pour effacer tes traces, me faire accuser pour tout l'argent que tu as volé au syndicat. Tu allais tout me coller sur le dos, tout ! Il n'a rien dit. Tu n'es qu'un salopard. Si j'allais en prison, que deviendrait Sophie ? Tu as signé son arrêt de mort, espèce d'ordure. Tu as pratiquement tué ma fille de tes mains.
Shane blêmit.
Ce n'est pas... Je ne voulais pas... Ça ne serait jamais allé aussi loin.
Aussi loin? Tu as volé le syndicat. Tu as trompé tes amis, tes collègues et ta famille. Ça n'était pas allé trop loin?
C'était l'idée de Brian, a répondu Shane comme un automate. Il avait besoin de cet argent. Il avait un peu trop perdu. Il disait qu'ils allaient le tuer. J'essayais juste de l'aider. Parole, Tessa. Tu connais Brian. J'essayais juste de l'aider.
En guise de réponse, j'ai attrapé son ceinturon de la main gauche, j'en ai sorti le taser et je l'ai montré. Encore un mensonge. Et je te fais danser. On se comprend, Shane? Arrête de mentir! Il a avalé et nerveusement passé la langue au coin de ses lèvres.
« Mais je... »«
Et merde » a-t-il soudain laissé échapper.
« Je suis désolé, Tessa. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Au début, j'accompagnais Brian à Foxwoods pour que lui ne dérape pas. Alors bien sûr, il m'arrivait aussi de jouer de temps en temps. Et puis j'ai gagné deux ou trois fois. Mais alors, ce qu'on appelle gagner, $5,000 d'un claquement de doigts. J'ai offert une nouvelle bague à Tina. Elle a pleuré et c'était super, génial, comme si j'étais Superman. Alors évidemment, il a fallu que je rejoue, sauf qu'on ne gagne pas à tous les coups. Alors, tu te mets à jouer davantage, parce que ça va venir, parce que c'est ton tour. Une bonne main, c'est tout ce qu'il te faut, une bonne main.
On se disait ça ces dernières semaines.
Une bonne après-midi aux tables et la situation serait rétablie. On n'aurait plus de problème. Ne serait-ce que 2 heures. Juste 2 heures de chance. Et on serait sorti d'affaire.
Vous avez détourné l'argent du syndicat. Vous avez vendu votre âme à des truands.
Shane m'a regardé.
Il faut de l'argent pour faire de l'argent.
M'a-t-il dit avec simplicité, comme si c'était l'explication la plus logique au monde. Peut-être que ça l'était, pour un joueur.
À qui as-tu emprunté l'argent?
Qui a tué Brian?
Qui a enlevé ma fille?
Haussement d'épaule.
Putain de merde, Shane! Ils ont ma gamine! Tu vas parler ou je t'explose le crâne!
Ils vont me tuer de toute façon. A-t-il riposté avec une animation nouvelle, du feu dans le regard. Il ne faut pas les faire chier, ces mecs. Ils m'ont déjà envoyé des photos. Tina qui fait ses courses, Tina qui va au yoga, Tina qui passe prendre les garçons. Je suis désolée pour Brian, je suis désolée pour Sophie, mais je dois protéger ma famille. J'ai peut-être fait des conneries, mais je n'aurais pas tout raté.
Shane, tu n'as pas encore compris. Je vais te tuer, et ensuite je te collerai le mot « balance » sur la poitrine. Après ça, je donne maximum 48 heures à vivre à Tina et aux garçons.
Il s'est troublé. Tu ne...
Imagine tout ce que tu serais prêt à faire pour tes fils, et figure-toi que c'est la même chose pour moi.
Il a poussé un petit soupir. Il m'a regardé et j'ai lu dans ses yeux qu'il avait enfin compris comment tout cela allait se terminer. Peut-être que comme moi, il avait passé les derniers jours à comprendre que l'enfer a plusieurs étages et qu'aussi bas qu'on pense être tombé, on peut toujours s'enfoncer davantage dans les ténèbres.
« Si je te donne un nom, »
a-t-il lâché.
« Il faut que tu le tues, ce soir. Jure-le-moi, Tessa, que tu le descendras avant qu'il descende ma famille. »«
Ça marche. »«
Je les aime, »
a-t-il murmuré.
« J'ai fait des conneries, mais j'aime ma famille. Je veux juste qu'ils aillent bien. »
À mon tour de garder le silence.
« Je suis désolée pour Brian, Tessa. Vraiment. Je ne pensais pas qu'ils en arriveraient là. Je ne pensais pas qu'ils lui feraient du mal. » Ni qu'il s'en prendrait à Sophie. Je n'aurais jamais dû jouer, je n'aurais jamais dû tenir une de ces foutues cartes entre mes mains.
Le nom, Shane. Qui a tué Brian? Qui a enlevé ma fille?
Il a regardé mon visage meurtri, a enfin paru touché. Alors il a hoché la tête, s'est un peu redressé sur la banquette. Autrefois, Shane était un bon policier. Autrefois, il était un bon ami. Peut-être qu'il essayait de retrouver cette personne-là en lui.
« John Stephen Purcell, » m'a-t-il dit, « un encaisseur qui vend ses services. Trouve Purcell et il aura Sophie. Du moins, il saura où elle est. »
Son adresse.
Petite hésitation.
« Enlève-moi les menottes et je te la trouve. »
Son flottement avait suffi à me mettre sur mes gardes. J'ai refusé.
« Tu n'aurais jamais dû faire de mal à ma fille. »
Et je murmurai en levant le Glock.
« Allez, Tessa, je t'ai donné le renseignement qu'il te fallait. »
m'a-t-il dit en entrechoquant ses poings menottés.
« Merde, c'est du délire. Libère-moi. Je t'aiderai à récupérer ta fille. On trouvera Purcell ensemble. Allez !»
J'y souris, mais d'un sourire triste. C'était si simple, à l'entendre. Sauf qu'il aurait pu me faire cette proposition le samedi, et qu'au lieu de ça... Il m'avait dit de rester les bras croisés et de me taire, et, oh oui, qu'il passerait le lendemain pour me filer une trompe. Gentil Brian, méchant Brian. Gentil Shane, méchant Shane. Gentil Tessa, méchante Tessa. Peut-être qu'en nous tous, la frontière qui sépare le bien du mal est plus mince qu'elle ne devrait, et peut-être qu'une fois cette frontière franchie, il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous ne sommes plus les mêmes.
Shane ?
ai-je murmuré.
Pense à tes fils.
Il apparut perplexe, puis je l'ai vu comprendre. Les policiers qui trouvent la mort dans l'exercice de leurs fonctions font bénéficier leur famille d'un capital d'essai, contrairement à ceux qui vont en prison pour avoir détourné des fonds et s'être livrés à des activités criminelles. Comme Shen l'avait dit, il avait fait des conneries, mais il n'aurait pas tout raté. Le gentil Shane a pensé à ses trois fils, et j'ai vu le moment où il arrivait à la conclusion logique. Il s'est décrispé. Son visage s'est détendu. Shane Lyons m'a regardé une dernière fois. «
Désolé »,
a-t-il murmuré.
« Moi aussi. »
Et j'ai appuyé sur la détente. Ensuite, j'ai quitté l'allée avec la voiture de patrouille et je me suis engagée dans la rue pour finalement me garer à l'arrière d'un entrepôt plongé dans le noir, le genre d'endroit où un policier pourrait se rendre s'il repérait une activité suspecte. Je suis montée à l'arrière, sans faire attention à l'odeur fétide du sang, au fait que le corps de Shane était encore chaud et souple. J'ai fouillé ses poches, puis son ceinturon, et j'ai découvert coincé à côté de son téléphone portable un bout de papier avec des chiffres qui ressemblaient à des coordonnées GPS. J'ai cherché ses coordonnées avec l'ordinateur de bord et noté l'adresse et l'itinéraire correspondant. Je suis repassée à l'arrière. Je lui ai enlevé ses menottes et remis son ceinturon. Je lui avais fait une fleur en le tuant avec le Glock de Brian. J'aurais pu me servir de son Six Hour à lui, ce qui aurait fait naître l'hypothèse d'un suicide. Auquel cas, Tina et les garçons n'auraient eu droit à rien.
« Je ne suis pas encore aussi endurcie, »
me suis-je dit. « Pas encore un cœur de pierre. » J'éprouvais une drôle de sensation dans les joues. Mon visage était étrangement engourdi. Je me suis concentrée sur ma mission. La nuit ne faisait que commencer et j'avais du pain sur la planche. J'ai été ouvrir le coffre de la voiture. Les policiers ont à cœur d'être parés à toute éventualité et Shane ne m'a pas déçue. Sur le côté du coffre, un pack de bouteilles d'eau, une demi-douzaine de barres énergétiques et même des rations militaires. J'ai jeté la nourriture dans mon sac de sport tout en me fourrant déjà la moitié d'une barre énergétique dans la bouche et je me suis servi de la clé de Shane pour ouvrir le long coffre métallique où il rangeait ses armes. Il avait un fusil Remington, une carabine M4, 6 boîtes de munitions et un couteau Kabar. J'ai tout pris.